Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi aujourd'hui un plateau de spécialistes du rugby, Lucas Bertolotto. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Journaliste pour l'AFP qui suit le RCT. Et Mathias Merlot. Mathias, bonjour.
Bonjour Lance.
Journaliste pour Midi Olympique qui suit également évidemment le RCT. Tous les trois, vous vous en doutez, on va débriefer cette très très belle victoire. C'était hier soir, les Toulonnais qui se sont imposés en Espagne contre l'Aviron bayonnais. On va débriefer en longueur cette rencontre, parler des actus de la semaine et puis on se projettera sur le programme des prochaines semaines du RCT. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on regarde quelques images pour commencer de ce très beau match avec justement un début de match canon pour Toulon, un essai de Duncan Payoa sur une interception. Bayonne va recoller au score mais Toulon déroule et marque grâce au géant Alan Wézé. En deuxième période, Baptiste sur un contre, un ballon et par Adam, tandis que Jamine et lui continuent d'enquiller face au perche. Et en fin de match, c'est Lester Fenga à Nuku qui offrira le bonus à Toulon, victoire 10 à 46 des Toulonnais, victoire bonifiée, donc 5 points pour Toulon. La semaine dernière, j'avais demandé à mes invités si on avait vu le meilleur match du RCT à domicile. Je pense qu'on a vu le meilleur match du RCT à l'extérieur cette saison, messieurs. Lucas, pour commencer.
Oui, clairement. Clairement, il n'y a pas de doute, même depuis longtemps. Ouais. Pas que de cette saison-là, mais il n'y a aucun doute. Ouais. Et c'est un très gros match du RCT qui enchaîne. C'était rare ces dernières semaines d'enchaîner. Mmh. Et un match à l'extérieur comme ça, je crois que c'est la plus grosse victoire à l'extérieur en top 14 cette saison.
Oui,
donc c'est une sacrée performance.
Ça a régalé, Mathias.
Ouais, c'est parfait. C'est parfait. On se demandait si Toulon allait pouvoir enchaîner après Montpellier. Ils ont apporté la meilleure réponse sur le terrain avec un match au plus qu'au complet. Conquête, défense parfaite, attaque inspirée. On a tout vu, ce qu'on voulait voir ces dernières semaines, et avec notamment un grand Baptiste Serin, mais tu vas encore y revenir, je pense.
Et justement, c'était l'idée aussi, parce qu'il y avait eu ce très beau match abouti contre Montpellier, mais on espérait que ce ne soit pas un petit coup d'esprit comme ça. Il fallait confirmer quand même après Montpellier, et confirmer à l'extérieur.
Oui, ben on l'avait vu contre Perpignan à domicile, avec une victoire assez facile quand même, et le match d'après au Racing qui était bien plus compliqué. Là, au final, ça a été une confirmation, mais on l'a senti un petit peu aussi tout au long de la semaine après le match contre Montpellier, que ce soit par le staff, par les joueurs, par le président, que j'ai eu la chance d'avoir en interview aussi, qui m'a paru assez confiant sur ce match-là. Et tout était réuni, le fait de jouer à San Sebastian plutôt qu'à Bayonne, là où Bayonne est invaincu,
ouais.
Le fait que Bayonne soit un peu moins bien aussi ces derniers temps, le fait que les cadres soient de retour, tout était un peu réuni, quoi.
La composition d'équipe, je voudrais qu'on en parle. Est-ce qu'à votre avis, à un ou deux joueurs près, on est sur la compo type du RCT en ce moment?
Ouais, clairement, c'est celle qui se dégage ces dernières semaines, notamment avec une troisième ligne hyper performante avec Olivon, Duprez, Abadi qui réalise un travail assez parfait avec beaucoup de bonnes choses, notamment devant. On retrouve une deuxième ligne assez solide avec Ribans à la Noessé, et puis derrière, on a les trois quarts inspirés, mais ça, on le savait. Mais devant, on va dire qu'ils font de plus en plus le boulot, ils se trouvent avec des automatismes de plus en plus présents entre tous les joueurs.
Et puis, c'était un point qu'on soulignait beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup de turnover dans cette équipe. Là, on commence un petit peu à installer une continuité, ce qui était important pour trouver du jeu, quoi.
Oui, ben on peut parler d'Olivon, clairement, qui a joué très peu de matchs avec Toulon cette saison, qui a été absent ces dernières semaines avec une blessure plus le 6 Nations, qui là retrouve un poste de numéro 8 qu'il n'avait pas occupé depuis un long moment à Toulon. Et au final, il est hyper performant, il fait du bien à cette équipe, comme Baptiste Serin fait du bien. Et en fait, ces deux joueurs-là, qui sont des cadres, des joueurs très expérimentés, qui sont là depuis très longtemps, relève le niveau de chaque autre individualité. On l'a vu avec Duncan Payoa, qui depuis deux matchs est redevenu le grand Duncan Payoa, alors qu'avant ça, il a eu un retour de Coupe du Monde compliqué, quoi.
Alors, on l'a évoqué, on va en parler tout de suite, la conquête, la mêlée, la touche, Toulon a largement dominé les Bayonnais. Hein. Vraiment, c'est assez impressionnant.
Elle est parfaite, la conquête. Il y a beaucoup de ballons récupérés en touche, en mêlée, c'est efficace. On a notre ballon, on récupère notamment une pénalité à 5 mètres de l'ambute grâce à Bekaj Gigashvili. Et forcément, quand on a les ballons en conquête, Toulon déroule plus facilement son jeu. On a aussi éteint cette équipe bayonnaise grâce à cette conquête-là, puisqu'on les a privés de ballons en touche. Et en mêlée, on a eu les ballons qu'il fallait. Donc c'est vraiment le point important de cette rencontre.
Et l'équipe bayonnaise qui en plus est plutôt à l'aise en touche au départ. Ouais. Enfin, ça a été vraiment
plutôt à l'aise. Mais bon, quand Esteban Abadi est là, on le voit clairement aussi sur les lancements de jeu en touche. Les équipes adverses réfléchissent un peu plus, tergiversent et ils contrent beaucoup de ballons. Hier, il y a 7 ballons récupérés en touche sur 15 touches, c'est quand même énorme. Et Toulon qui performe dans ce domaine-là sur les touches adverses, c'est 25% de lancers adverses récupérés depuis le début de saison. C'est un quart, quoi. C'est solide. Alors, On peut faire mieux. Je pense que Toulon peut faire mieux sur ses propres lancers. C'est pas encore le top, mais ça s'améliore. Mais sur les lancers adverses, ça permet de récupérer beaucoup de ballons, de retourner dans le camp adverse, de récupérer des pénalités, des lancements de jeu. C'est plutôt pas mal.
Et paradoxalement, alors quand on regarde le score, la 10-46, on l'a dit, plus large victoire à l'extérieur cette saison, mais ce qui marque quand on voit le match, c'est aussi, et avant tout défensivement, avant même de parler, on en parlera de la réussite offensive, c'est que défensivement, cette équipe toulonnaise, alors elle a pris un seul essai, mais elle a été globalement infranchissable. Quoi.
Ben non, c'est déjà, il y a deux essais sur récupération de ballon, avec une interception de Duncan Pereira et un coup de pied contré de Camille Lopez par Baptiste Serin, donc déjà ça fait un ratio de 14 points sur des essais à 0 passe, ce qui aide à gagner un match à l'extérieur. Et après, bah, elle a été infranchissable, la défense. Il y a eu très peu de très gros breaks, hormis peut-être Tibérien où il glisse devant Dan Bigard en première période, alors qu'il avait quasiment s'étouffé. Et sinon, la défense toulonnaise, elle est infranchissable. Il y a une espèce de rideau où les adversaires se cassent les dents depuis deux semaines maintenant. Donc c'est plutôt bon signe. On voit aussi Baptiste Sorin très important en défense, puisqu'il va chasser ses adversaires. Et voilà, le Baptiste Sorin, il est important également dans son retour offensif, mais aussi défensif. On sent que c'est un garçon qui apporte beaucoup de paroles et qui guide un peu ses équipes de l'arrière, et qui permet à cette équipe toulonnaise d'être assez confiante en défense.
Mathias l'a bien dit, on l'a déjà vu la semaine dernière contre Montpellier, début de match défensif impressionnant, avec, alors que Montpellier dominait. Et là hier c'est pareil, dès le début de match Toulon met le rideau, marque rapidement, et du coup la confiance est là d'entrée, et derrière ça permet à Toulon de débloquer son jeu et de tenir, même quand Bayonne a essayé de revenir un petit peu en fin de première période, Toulon a pu tenir facilement. Quoi.
On n'a pas beaucoup tremblé, et puis bon, on l'a dit, offensivement 54 points la semaine dernière, 46 cette semaine, 100 points tout rond en deux rencontres. Ça y est, on a enfin trouvé ce fameux plan de jeu dont on entend parler.
Pourvu que ça dure, on a envie de dire. Oui. Pourvu que ça dure, non. Mais on voit quand même des choses de meilleure facture que ces dernières semaines. On voit beaucoup de retours dans le fermé depuis deux journées. L'essai du bonus offensif, c'est un retour dans le fermé, un petit côté fermé. Mmh. Et c'est ce que André Massi voulait beaucoup travailler. Alors, ça demande du temps, il en a réclamé. Mais là, on commence un peu à avoir sa patte. Mais... comme on l'a dit, offensivement, je pense qu'il y a encore une marge de progression assez importante. C'est sur la défense qu'on gagne cette rencontre. Alors c'est très bien, hein, puisque la défense, elle fait aussi partie du jeu. Oui, mais je pense qu'offensivement, on peut encore bien plus s'améliorer, puisqu'on dépend encore beaucoup des petits coups de génie aussi de Baptiste Serin, avec ce coup de pied un peu derrière le rideau. Offensivement, je pense qu'on peut en faire encore mieux. Et heureusement, et c'est même bon signe si on peut continuer à s'améliorer en vue de la fin de saison.
La différence, c'est qu'on voit des avants qui avancent plus sur le terrain, qui gagnent plus de mètres, qui arrivent à faire une différence là-dessus, sur l'impact, à avancer ce qui faisait pas forcément plus tôt. Du coup, ça aide, ça facilite le jeu dans la foulée. Mais il y a quand même trois essais hier. Donc, bon, un qui vient sur le coup de pied par-dessus de Baptiste Serin, qui lance un peu à lui tout seul l'offensive, et deux sur à zéro passe. Donc là-dessus, il y a peut-être mieux à faire par rapport à d'autres équipes. Alors après, c'est le haut du tableau, mais c'est ce que cherche Toulon. Mais il y a peut-être mieux à faire dans les lancements de jeu là-dessus.
Je crois que c'était pas vraiment le plan de Pierre Mignoni. Hein. Il voulait occuper, être propre, taper les pénalités à 50 mètres. Et c'était plutôt bien fait, puisqu'on a Toulon a rapidement creusé le score. Mais je pense qu'à Mayol, on a vu déjà plus de jeux face à Montpellier, et je pense qu'à l'extérieur c'était pas vraiment le plan, en tout cas cette semaine, mais ça a payé aussi.
Oui, et puis ces deux essais donc à zéro passe qui ont quand même bien aidé, notamment en début de rencontre, pour se mettre dedans. On peut pas parler de cette victoire sans évoquer Baptiste Serin, on l'a fait déjà un peu au fur et à mesure de nos réponses. Que dire,
il a
tout changé, il change tout dans cette équipe. Je veux déjà qu'on parle de son match, après on reviendra de manière plus générale sur son retour à Toulon, mais sur son match, on comprend pourquoi est-ce qu'il a manqué tant de temps au RCT.
C'est le patron, clairement, aussi bien dans le jeu que dans le comportement, dans tout. Il va chercher l'arbitre de temps en temps sans le saouler, le presser. Il va chercher ses coéquipiers quand ils ont un coup de moins bien. On l'a vu avec Jaminet qui fait un petit en avant dans ses 22 mètres. Tout de suite, il va le voir et il l'encourage. Dans le jeu, il fait des différences exceptionnelles. À lui tout seul, il est capable de trouver un truc que personne ne voit. Et tout le monde se sent mieux. On le sent que le groupe, l'équipe se sent mieux à ses côtés. C'est le guide du RCT, quoi. Alors, on nous avait dit que Baptiste Serin n'était pas indispensable et que les mauvais résultats n'étaient pas liés à son absence. Mais il faut le constater qu'il est revenu en deux matchs. Et en deux matchs, c'est pas le même visage.
C'est l'emprise sur ses partenaires qu'il a. Il a une emprise mentale. On a l'impression que quand il est sur le terrain, tous ses coéquipiers sont rassurés rien que par sa présence avant de rentrer dans le match. Et il est également aussi très positif ces dernières semaines. On le voit dans les moments un peu chauds, on le voit parler à des joueurs, on le voit leur dire allez les gars, faites attention aux défenses.
Même quand il est sorti au bord de la pelouse, on sentait qu'il était.
Exactement. On voit la bise à Jules Danglot. On voit la bise aussi à Jules Danglot quand il y a son remplacement. On le sent très positif. Et je pense que c'était aussi ce qui manquait à ce Toulon là, c'est que durant cette série de défaites, il n'y a eu aucun joueur capable de ramener un peu cette positivité à l'intérieur du groupe. Et lui, venu de l'extérieur, avec aussi Charles Olivon et Esteban Abadi, ils ont su insuffler ça à cette équipe. Et ce qui a permis aussi un peu de laver les têtes en vue de la fin de saison.
Alors ça me fait vous poser une autre question, et votre réponse m'amène parfaitement à cette question. C'est, on parle quand même de Baptiste sur indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, le RCT, sans lui, est capable d'être ce qu'on a vu hier soir? Parce qu'on parlait notamment beaucoup de Dupont dépendance à Toulouse. On a vu que sans Antoine Dupont, les Toulousains s'en sortaient plus que bien. On a vu que sans Baptiste Serin, c'était très difficile. Pierre Mignoni n'aime pas qu'on parle de ça, mais c'est quand même une vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, le RCT n'est pas dépendant de Baptiste Serin?
Ben, c'est le leader de cette équipe qui joue à un poste clé dans cette équipe. Il n'y a pas de poste plus clé que le sien. Donc, clairement, alors, je nuancerai en mettant peut-être Charles Olivon aussi dans le lot, parce que on le voit moins présent, mais sa présence fait beaucoup, beaucoup de bien, notamment sur le pack et tout, et je le mettrai. Et son absence coïncidait avec les mauvais résultats aussi du club. Mais clairement, oui, entre Serin et Olivon, les deux-là, sans eux, c'est pas du tout le même visage. Et je pense que, et en même temps, on peut n'être que dépendant de ces deux joueurs-là qui sont internationaux français, on ne sait combien de sélections, et qui sont dans tous les clubs, dans n'importe quelle équipe, serait aussi important.
Non, t'as posé la bonne question par rapport à Antoine Dupont. C'est là où on voit l'avance qu'a Toulouse, c'est le projet collectif qui est mieux construit que celui du RCT. Alors c'est aussi normal parce que ça fait des années qu'Hugo Mola travaille avec son staff à Toulouse, et que là à Toulon, l'arrivée de Pierre Mignoni, l'arrivée d'André Amassi, ça va demander un peu plus de temps. Mais c'est là aussi où on voit qu'Antoine Dupont, quand il est pas là, c'est sûr que Toulouse joue un peu moins bien, c'est toujours mieux de l'avoir, mais ça tourne quand même, alors que sans Baptiste Serin, Toulon n'a quasiment pas tourné. Donc c'est là où on voit que ce club-là, cette équipe-là, cet effectif-là a besoin de progresser sur son jeu collectif, c'est-à-dire d'être un peu moins dépendant malheureusement de ces très grands joueurs que sont Baptiste Serin et même Charles Olivon.
Allez, on marque une courte pause et on continue de débriefer ce match face à Bayonne. Et de retour dans Tribune Mayol, on parlait évidemment de Baptiste Serin, de son importance, et on disait à quel point le RCT était plus ou moins dépendant de lui. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont fait beaucoup de bien. On peut même commencer par évoquer Charles Olivon. On l'a dit, un peu moins visible, travaille un peu plus de l'ombre, mais son remplacement en numéro 8, Pierre Mignoni a eu une réponse assez drôle cette semaine en conf de presse, il a dit qu'il aimait bien le voir en numéro 8 simplement, mais ça paye aussi sur le terrain surtout.
Clairement, mais je pense déjà que ça lui fait plaisir de jouer à ce poste-là. Numéro 8, c'est le poste où il a été formé, on le sent bien, on le sent à l'aise, il a vite récupéré ses repères. On le sent hyper complémentaire avec Esteban Abadi et Duprez, c'est-à-dire que ça court, ça plaque, ça saute en touche, ça coche à peu près toutes les cases d'un bon troisième ligne. Et puis, on le voit faire des départs de numéro 8, mettre également tout le monde en salle avancée. C'est pas le 8 perforateur, c'est le 8 coureur, mais on se rend compte que, mine de rien, bah, Charles Olivon, il sait tout faire. C'est aussi la marque des très grands joueurs. Et Charles Olivon, comme Lucas l'a dit, il tire aussi cette équipe-là vers le haut. Il y a un leader un peu de la ligne arrière avec Baptiste Serin, même s'il a une emprise également sur le pack d'avant. Et on a Charles Olivon qui rassure aussi le 8 de devant. Donc c'est parfait de récupérer ce Charles Olivon-là à ce niveau-là.
Il nous montre de belles mains. Hier, on l'a vu sur le dernier essai de Penganoukou. Où ils se font un beau 1-2 entre eux. Et franchement, il est capable de tout faire. Alors maintenant, ça va être un peu des mots pour le staff, pour Pierre Mignoni, parce qu'il y a quand même deux autres numéro 8 qui sont quasiment capables de jouer qu'à ce poste-là, Tolofua et Issa, qui ont vraiment des profils de perforateurs en numéro 8. Donc à main à savoir comment faire, mais c'est vrai que ça faisait 2 ans, je crois qu'on avait calculé la semaine dernière contre Montpellier, 2 ans qu'il n'avait pas joué à ce poste-là. Et franchement, c'est même solide et c'est même plus visible pour lui que flanqueur.
On peut enchaîner si vous voulez, on peut dire peut-être un dernier mot, souligner Melvin Djaminet, justement, on l'a dit, parce que sans être encore ultra flamboyant dans le jeu, mais par contre, tous les ballons ou presque hier soir sont passés entre les perches. Enfin, c'est quand même 26 points une nouvelle fois, ce qui est quand même énorme, et un énorme avantage quand on est au RCT de savoir que peu importe la pénalité.
Ouais, ça fait vraiment du bien. Ça faisait longtemps que Toulon n'avait pas eu un buteur de cette qualité. Alors on avait Enzo Hervé en début de saison qui enchaînait plutôt pas mal, mais après il est sorti du groupe, c'était plus compliqué pour lui de revenir, il a perdu ce rôle là. Mais quand on sait qu'on a un buteur pareil, on a une pénalité à 50 mètres n'importe où placée sur le terrain et que ça peut faire 3 points, forcément ça aide aussi l'équipe à se soulager et à se dire c'est plutôt pas mal pour les matchs un peu plus tendus. Alors hier ça l'était pas, mais on l'avait vu déjà contre La Rochelle où tu gagnes 2-3 points à la dernière seconde grâce à lui et sa pénalité, ça aide forcément.
Et mentalement ça fait du mal aux équipes adverses aussi, de savoir que tu fais une faute à 55 mètres, que Benjamin ramène un tir qui passe 3 points, je pense que dans la tête, les têtes basques, ça a fait aussi beaucoup de mal en tout cas pour hier.
Je vous propose qu'on écoute justement Pierre Mignoni, le directeur du rugby diversité, en après-match, en conférence de presse.
Bon, y a rien qui est fait, hein. C'est une victoire importante, mais il faut garder l'humilité dans ce qu'on fait, dans le travail, parce que tu perds un match, tu redescends. Hein. Donc si tu veux être invité à la fin, il faut gagner en consistance. Et je sais de quoi je parle, parce que cette équipe, elle n'est pas consistante du tout. Donc le passé proche et même avant montre que ce que je dis est vrai. Donc il faut qu'on gagne en consistance. Je suis content, je pense qu'on a appris par rapport à la semaine dernière. C'est vrai qu'on sortait d'une belle performance à domicile. Le confirmer ce soir, pour moi, c'est un axe de progrès. C'est un signe de progrès, pardon. On verra le prochain match.
Alors on ne s'est pas trompé, hein. C'est bien un extrait d'après-match de la victoire du RCT. On pourrait se poser la question. Non, il est, on va dire...
dans son rôle de professeur.
Voilà, il fait attention, Pierre Mignoni, il ne veut pas s'enflammer.
Mais il sait très bien, il l'a vu ces dernières semaines, oui. Que s'il y a deux défaites qui arrivent dans la foulée, ce sera plus compliqué. Donc non, il a raison de ne pas s'enflammer. Ça reste deux belles victoires contre Montpellier et Bayonne. Mais il y a quand même encore six matchs à jouer sur cette fin de saison, dont des gros matchs avec la prochaine réception de Toulouse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'enflammer.
Et justement, la question maintenant que j'ai envie de vous poser, est-ce que Toulon est de retour? J'ai posé la même la semaine dernière, on m'a dit... On verra, il faut gagner à l'extérieur. Bon, ben là, on a largement gagné à l'extérieur. Non, est-ce que le RCT est de retour et le RCT qu'on attendait depuis longtemps, est-ce qu'il est enfin là?
J'espère. Je vais pas.
Je pense quand même. La guigne,
non, il y a des indices qui montrent quand même que ça redevient une équipe de très haut niveau. Et je pense que aussi le regard des équipes adverses envers ce Toulon-là change. Je pense que Toulon était mieux à prendre il y a un mois que ce qui va l'être dans les semaines à venir. Malheureusement, il y a quand même cette pause là, donc il faudra voir aussi comment cette équipe va revenir de sa semaine de vacances et de son autre semaine d'entraînement sans match. Mais c'est presque dommage, on va dire, que cette petite trêve d'Europe elle arrive maintenant, parce que je pense que cette équipe là sur la dynamique pouvait embêter beaucoup d'équipes sur les prochaines semaines.
Le président parlait notamment chez vous de top 4. Lui, c'était même plus son objectif que le top 6. Ça paraît ubuesque parce qu'il y a quelques semaines, on ne l'aurait jamais dit, mais en soi, ça semble jouable aujourd'hui le top 4 pour le RCT.
C'est grâce à ce top 14 ultra serré avec très peu de points entre la 13e place et la 3e place. Mais donc oui, aujourd'hui tout le monde est dans le top 4, mais on le voit avec une défaite, voire deux, ça peut revenir à la 12e place, c'est compliqué. Et depuis le début de la saison, à part les deux premières équipes du championnat, il n'y a vraiment aucune équipe qui a réussi à performer chaque week-end. C'est par série à chaque fois, donc il y a des équipes qui fonctionnent bien, moins bien après et tout. Et Toulon, c'est un peu comme ça aussi. Donc maintenant, à voir si la mauvaise passe est finie et Toulon va réussir à performer pendant plusieurs semaines d'affilée, ce qu'on souhaite au club. Mais cette saison... Aucune équipe n'y arrive vraiment, à part Toulouse et le Stade Français qui sont loin devant.
Voilà, le top 2, ça paraît assez inatteignable au vu des deux premières équipes qui carburent. Un mot rapidement sur l'actualité. On a appris dans l'interview avec Bernard Lemaitre, c'était une info aussi qui avait été distillée par Midi Olympique, la signature de Ludlam et Sinclair, deux internationaux anglais, pour la saison prochaine. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ces signatures, de deux joueurs d'expérience, on peut le dire?
On en pense que ça fait pas de mal. Alors en plus, c'est des joueurs qui devraient remplacer d'autres joueurs étrangers. Oui. Donc ça coupe pas de poste gif, non gif dans l'effectif. Et c'est quand même deux internationaux anglais de très haut niveau. Kyle Sinclair qui a plus de 40 sélections. Lewis Ludlam un poil plus jeune, qui en a quand même un paquet aussi. Un poste pilier droit pour Sinclair qui est pas mal. J'ai senti Bernard Lemaitre très très enjoué de ces deux arrivées-là. Il espère clairement que ça fonctionne comme David Ribans, qui a été une des très bonnes pioches. Et faut espérer que ça fonctionne pareil. S'ils sont deux joueurs impliqués comme lui, ça peut être que bénéfique pour Toulon.
Les avant-anglais fonctionnent assez bien en général en top 14, j'ai la sensation. Non, mais c'est vrai.
Ah, clairement, on jugera sur pièce quand ils seront là à Toulon, bien évidemment. Pour Ludlam, je sais qu'il y en a un qui regrette le départ de Duprez, mais ça fait partie aussi d'un rajeunissement de l'effectif. Ludlam et Lucas l'a dit, bien plus jeune par rapport à Cornel Duprez. Pour le poste de pilier droit, c'est un peu différent. Parce que
c'est une denrée rare.
Voilà, c'est une denrée rare. Sinclair est quand même Lions britannique, ça a quand même été une référence à son poste à très haut niveau. Il est certes un peu plus en retrait depuis quelques saison, mais ça va peut-être lui redonner un peu d'envie, un peu de la volonté de montrer son vrai visage, de revenir à Toulon, de se mettre un peu en danger. On perd Kieran Brooks, on récupère Kyle Sinclair sur le papier. Honnêtement, t'es pas vraiment perdant, en tout cas pour l'instant sur le papier. Après, il faudra juger sur le terrain, mais sur le papier, on peut pas dire que Toulon est réellement perdant.
Et pour avoir vu les réactions de nombreux Britanniques sur les réseaux sociaux, ils les regrettent déjà. Donc, alors, je regarde pas tous les matchs anglais tous les week-ends, mais eux les regrettent déjà, donc c'est plutôt une bonne chose si eux les regrettent pour Toulon pour la saison prochaine.
Alors on va passer, difficile de parler de ce match du Stade Toulousain parce qu'il va y avoir, on l'a dit, deux semaines de coupure. Le Stade Toulousain qui eux vont jouer un huitième de finale pardon, de Coupe d'Europe la semaine prochaine, potentiellement un quart la semaine d'après. On n'a un peu aucune idée de comment va venir le Stade Toulousain au Vélodrome. Est-ce qu'ils vont envoyer l'équipe type? Est-ce qu'ils vont plutôt faire souffler les cadres? Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi de dire que paradoxalement on aurait aimé que Toulouse, on verra si c'est le cas, vienne un peu avec ses cadres pour voir un peu ce que vaut ce RCT? On s'est confronté à Montpellier, on s'est confronté à Bayonne, deux équipes qui étaient derrière nous au classement. On a envie de se confronter aussi un peu à ce qui se fait de mieux dans un stade Vélodrome en configuration un peu de phase finale pour voir ce que cette équipe elle a dans le ventre finalement.
Oui, puis Toulouse l'a clairement fait les dernières saisons en jouant le jeu à chaque fois, alors que ce match tombe toujours dans une période compliquée pour eux. Donc oui, on a envie de ça. Après, voilà, tout dépendra de la Coupe d'Europe, de la Champions Cup jouée par Toulouse, parce que s'ils ne se qualifient pas en quart de finale, forcément, ils auront une semaine de repos. Il y a des chances de voir les cadres contre Toulon, de grandes, grandes chances. Mmh. Maintenant, s'ils jouent deux semaines à bloc, qui se qualifient pour les demi-finales, qui interviendront bien plus tard, mais bon, c'est plus compliqué pour eux. Donc ça, on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, qu'il faut savoir, c'est que Toulouse, même sans les internationaux qui sont nombreux,
c'est la meilleure équipe des doublons.
Ouais, ça fonctionne quand même bien, bien, bien. On l'a encore vu ces dernières semaines, comme l'a dit Mathias. Donc, dans tous les cas, Toulon va avoir un gros test ce match-là et on va voir si Toulon est de retour, quoi.
Le mot de la fin pour Mathias sur ce match.
Ouais, c'est la meilleure équipe des doublons. Donc, forcément, c'est un réservoir assez impressionnant de qualité, de quantité, avec beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui ont envie aussi de monter petit à petit dans la hiérarchie toulousaine. Bien évidemment, on aurait aimé là que ça arrive dès samedi prochain, cette rencontre, parce que, honnêtement, sur le papier, elle fait vraiment envie. Je suis pas sûr que Toulouse vienne quand même avec si peu de cadres, parce qu'il y a quand même ce top 2 sécurisé du côté de Toulouse. Toulon est pour l'instant loin, mais on le sait, il reste 6 matchs, ça peut aller vite le top 14. Donc je pense pas que Toulouse va venir pour en prendre 40, et c'est surtout pas dans la mentalité du Goumoulin.
Ben on a hâte, il va falloir patienter un petit peu, on va regarder la Coupe d'Europe à la télé du côté des Toulonnais, mais au moins on aura hâte de voir ce Vélodrome qui sera peut-être rempli, on l'espère en tout cas. Messieurs, merci beaucoup, et nous avant de se quitter, on regarde les résultats des autres clubs sportifs du département. Et on commence avec le très beau coup en rugby de Lierre Kerkeran qui s'impose 27-24 à domicile face à Narbonne. Un moins bon coup pour la Seine qui s'incline lourdement, très lourdement, même 81-0 sur la pelouse de Nîmes. Le 15 du coup donc qui va s'imposer 2-2 points à Grasse. En football, il y avait 3 matchs en retard pour nos clubs varois. Victoire 1-0 de Toulon face à Andrézieux. Victoire 3-0 de hier à Alès. Et match nul 0-0 entre Fréjus et Le Puy. En futsal, Toulon s'impose 3-1 à l'extérieur. En handball, Saint-Raphaël fait match nul. Et puis le HTV en basket qui continue sa folle remontée et son rêve de monter justement. Victoire après prolongation 71-69 face à Chartres. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on va marquer une courte pause la semaine prochaine, comme le RCT. On va prendre une semaine de vacances, mais on se retrouve très rapidement pour parler du Rugby Club Toulonnais.